Les lecteurs interviewent d'autres lecteurs. Nous avons voulu mettre en lumière les imaginaires de trois usagers, lecteurs de la BEP, enregistrés lors d'un atelier d'initiation au podcast qui a eu lieu le 16 février 2025 en résonance avec l'exposition « Nos imaginaires ».
Alors nous sommes à la Bibliothèque d'études et du patrimoine avec Léa Tichy, docteur en histoire de l'art. Bonjour Léa.
Bonjour, merci de me recevoir.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Merci, je m'appelle Léa Tichy, je suis donc docteur en histoire de l'art, historienne de l'art. J'ai 31 ans, je réside à Toulouse et je suis habituée du coup de la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Toulouse.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre métier ?
Oui, bien sûr, j'ai deux pans d'activité, la recherche et l'enseignement. D'une part, je m'intéresse aux expositions d'architecture dans le cadre de mes recherches. Et en ce moment, je mène une recherche auprès du musée du Louvre pour voir comment l'architecture est collectionnée et exposée en son sein. Et à côté de ça, je suis donc enseignante en histoire de l'art et plus particulièrement de l'histoire de l'architecture. Je suis maître de conférence associée à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, chargée de cours aux universités Toulouse-Jean Jaurès et Bordeaux-Montaigne, et aussi, du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, chargée de cours au sein de l'Institut supérieur des arts appliqués de Toulouse.
Et ça fait combien de temps que vous venez à la BEP ?
Je viens à la BEP depuis que je réside à Toulouse, donc pour mes études, ma troisième année de licence. J'avais l'habitude de venir avec une amie de licence, Leïla, pour profiter des fonds de la bibliothèque qui sont assez formidables en matière d'art. Mais en fait, même si on n'avait rien à consulter, on venait quand même travailler ici pour profiter de ce cadre.
Et est-ce que votre travail à la BEP, c'est utile pour vos cours derrière ?
Oui, ça arrive que je vienne consulter des ouvrages qui puissent être à la source de certains de mes enseignements et de mes recherches plus largement. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, je suis beaucoup venue à la BEP pour consulter des revues spécialisées en architecture et c'était toujours un plaisir parce que j'ai commandé des centaines de documents en réserve, donc assez compliqué d'accès et les bibliothécaires me l'ont toujours sorti avec le sourire, donc ça a toujours été un grand plaisir de travailler ici.
Comment vous décririez votre lien avec la BEP aujourd'hui ?
Ben, je suis attachée du coup à cette bibliothèque et même à ses équipes. Mon lien avec la BEP, je viens y travailler, voilà, toujours, même si je n'ai rien à consulter, j'apprécie venir de temps en temps retrouver un petit peu de concentration ici, disons. Et ensuite, alors c'est quelque chose aussi que j'amène quand on ne sait pas trop quoi faire avec des amis ou de la famille qui voudraient visiter Toulouse. C'est un bâtiment que j'ai beaucoup de plaisir à venir faire connaître, puisqu'effectivement, c'est quelque chose de très central dans Toulouse et pour autant dans une petite rue et qui est assez mal connue, il me semble. Donc il y a ce pan-là. Et à côté de ça aussi, effectivement, c'est la deuxième fois que j'ai amené une classe à travailler ici. Donc une première fois, c'était il y a 2 ans, il me semble. Je suis venue avec un groupe de TD de l'ENSA Toulouse, l'école d'architecture de Toulouse, pour travailler autour de la question du petit équipement public, de la bibliothèque et des programmes de la bibliothèque. Toujours accompagnée d'Alexandre Faria qui travaille ici et on a réitéré l'expérience du coup cette année. Et je suis venue avec des étudiants de l'Institut supérieur des arts appliqués de Toulouse qui sont en voie de devenir designers d'espace. Et on est venu travailler à partir de la bibliothèque, toujours avec Alexandre Faria.
Vous disiez que vous avez développé des projets avec vos étudiants. Le bâtiment est vraiment remarquable à Toulouse. C'est le style art déco, c'est bien ça ? Donc, est-ce que ça apporte vraiment une différence par rapport à une bibliothèque classique, au niveau de l'acoustique, par exemple ?
Oui, je pense que là, on est vraiment sur un des plus beaux témoignages de l'art déco à Toulouse et surtout de la main en plus de Jean Motariol, hein, qui est un personnage, un architecte incontournable de cette architecture toulousaine. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup plaisir à le montrer aux étudiants parce que c'est un témoin clé en fait de cette histoire, de l'histoire d'une manière générale de l'art déco, d'une histoire de l'architecture toulousaine également. En matière d'acoustique plus spécifiquement, je suis pas assez technique pour vous le dire. Il y a quelque chose de très drôle, en tout cas dans la bibliothèque qu'on s'amuse toujours à voir avec les étudiants, c'est cette coupole là, selon où vous vous placez dans la coupole en fait.
Avec la résonance.
Voilà. Oui. Donc ça c'est assez amusant effectivement à constater. Et ensuite, surtout, non, j'apprécie aussi venir avec des étudiants ici pour la qualité du programme même de la bibliothèque. En fait, on est sur une bibliothèque moderne, c'est-à-dire qu'on a des fonds avec des magasins, ce qui est en fait un grand tournant dans l'histoire du petit équipement public de la bibliothèque. Et c'est pour ça que c'est d'une manière programmatique très intéressant à constater. Avant, les livres étaient tous en fait accessibles, hein, dans une salle unique. Et à partir donc de ce tournant de la fin du 19e siècle, on a commencé à avoir des magasins où on avait les livres en réserve pour des raisons parce qu'on avait trop de fonds tout d'un coup, parce qu'il a fallu les sécuriser également. Donc il y a un palier supplémentaire en fait dans la bibliothèque.
Et vous avez demandé à vos élèves de réaliser des dessins d'une BEP imaginaire. Pourquoi vous avez choisi de les faire travailler sur ce thème de l'imaginaire ?
Donc il y a plusieurs raisons à ça. Alors déjà, c'était en collaboration toujours avec Alexandre Fariat qui a suggéré ce thème qui, pour moi, fonctionne très très bien puisque d'une part, ça permet aussi aux étudiants d'avoir du plaisir dans ce qu'ils font, sachant que souvent, je donne des exercices assez universitaires et un petit peu cadrés, voire stricts à réaliser. Donc là, c'est l'occasion pour eux de s'exprimer à partir évidemment d'un programme assez quand même contraint. Ça permet aussi cette question de l'imaginaire de stimuler tout simplement leur créativité, leur inventivité, et qu'ils se sentent à l'aise aussi dans tout ça, qu'ils aient l'habitude de traiter ce type de sujet. C'est aussi l'opportunité de se rendre compte qu'en fait on peut être très inventif à partir d'un déjà là et d'un patrimoine existant et de voir un petit peu la confrontation de ces deux thématiques dans leur projet.
Et vous avez eu des dessins de plusieurs styles, de science-fiction par exemple, des dessins futuristes.
Oui, j'ai été étonnée du nombre de dessins qui détruisaient cette bibliothèque sans
dans
pour autant...
Dans une apocalypse, ce genre de choses.
Sans pour autant la refaire par la suite, donc il y a... Oui, tout à fait. Je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant.
Alors, est-ce que d'après vous, l'organisation et l'esthétique de ce bâtiment, ça invite à l'imaginaire ?
Oui, rien qu'en termes esthétiques, tout ce programme, notamment de sculpture qui se développe sur la façade, entraîne à l'imaginaire. On se questionne sur cette frise, hein, ça en bas-relief qui est sculptée, donc qui représente à la fois en plus une histoire toulousaine et une histoire plus universelle, ce qui invite à la songerie, disons. La bibliothèque, les espaces en eux-mêmes... Bon, moi, je n'ai pas forcément de grande créativité dans mon travail, mais effectivement, rien que de venir travailler ici, ça donne envie d'élargir un peu ses horizons.
Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un bâtiment de type art déco, donc il répond à des règles et aussi à un idéal d'usage. Est-ce que la contrainte, d'après vous, ça favorise l'imaginaire ? Paradoxalement, est-ce que la contrainte favorise l'imaginaire en architecture ?
J'en suis absolument convaincue. Et en général, c'est les meilleurs sujets. Effectivement, les contraintes... en matière de programme, de budget, d'espace, de besoins, c'est vraiment les meilleurs moteurs en fait pour la créativité, puisqu'il va falloir chercher ailleurs, chercher des solutions, être inventif, réviser en fait des manières de faire et de concevoir l'architecture. Donc c'est absolument, il me semble, passionnant et essentiel pour avancer dans cette histoire. Par ailleurs, tout ce qui est période de crise, hein, on l'a bien vu au regard de l'histoire, étaient des périodes favorables, hein, à cette inventivité. Je pense en architecture, une période assez récente, dans les années 70, 1970, où les architectes, dans l'incapacité de construire, en fait, se sont tournés vers une architecture de papier et où même ont révolutionné certaines techniques et manières d'aborder l'architecture. Et c'est une période tout à fait passionnante. Hein. Donc il me semble effectivement que la contrainte peut être un véritable moteur. Oui.
De trouver une autre solution quand la première n'est pas disponible.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez vu l'exposition sur les imaginaires de la BEP ?
Oui.
Qu'est-ce qui vous a marqué sur ces expositions qui sont dans les vitrines ?
J'ai trouvé qu'il y avait une diversité de documents, une richesse de ces documents qui était particulièrement intéressante. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est un journal Les Inventions Illustrées qui représentait un projet qui s'appelle la Villa Tournesol de la fin du 19e siècle et qui a résonné avec des problématiques que justement j'étais en train de me poser. Et en fait, c'est une représentation d'une maison mise sur un pivot, une maison en plus dans sa forme très traditionnelle, voilà, avec la maison qu'on s'imagine et qu'on dessinerait en fait enfant, et qui est mise sur une espèce de pivot et qui peut être orientée en fait en fonction du soleil, voilà, qui tourne et qui du coup peut profiter largement de la luminosité naturelle au cours de sa journée. Et ça, c'est une illustration qui m'a beaucoup plu et qui résonne beaucoup, il me semble, aujourd'hui au regard des contraintes climatiques.
Hein. Techniquement, ça pourrait exister dans le futur.
Il me semble même qu'on a déjà eu des cas hein, par le passé. Et là, ce qui m'a beaucoup plu, justement, c'était cette espèce de grincement entre la maison tout à fait traditionnelle, comme on se l'imagine, même enfant, et en même temps quelque chose d'hyper technique et hyper innovant. C'est très chouette à regarder.
Et si vous aviez eu carte blanche pour exposer des objets ou des livres dans cette exposition, qu'est-ce que vous auriez choisi ?
Je trouvais ça super comme exposition. Il n'y a rien qui me vient particulièrement à l'esprit. Peut-être, remarque, c'est tous ces fabuleux dessins là, d'architectes qu'il y a eu dans les années 70. Je pense notamment au dessin de Jean-Paul Jungmann ou tout ce groupe d'architectes qui se tournent vers l'utopie. Ils ont un groupe éponyme d'ailleurs. Peut-être des dessins comme ça, oui.
Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Ce podcast a été réalisé par Alexandra Joss pour Média Commun Occitanie, avec la complicité des participants et participantes à l'atelier et des bibliothécaires. Il est placé sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.